Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Rabbi Shaya Sayag.
Traité Psachim, page 6, DAF Vav.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Psachim Vav. L'Agma s'est posé la question quand un animal est dédié à être payé en impôt. En vérité, on a un bétail et dans ce bétail, une partie des animaux vont être, une partie vont être prélevées en tant qu'impôt. Donc, ce qui fait qu'un non-juif a une certaine emprise sur ce bétail. Est-ce que, puisqu'il est associé en fin de compte avec ce bétail, on va le considérer comme un animal dont on est un juif et un non-juif sont associés là, à la halakha, dans ce cas-là, que si le béchor, le premier-né de cet animal, ne sera pas amené en tant que korban, ou est-ce qu'on ne va pas le définir comme une association juif et non-juif et donc il sera chayav de korban? La question ne se pose que dans le cas où il ne peut pas payer cet impôt par de l'argent. Mais s'il peut payer cet impôt par de l'argent, donc le non-juif n'a pas d'emprise sur ce bétail et donc c'est sûr que dans ce cas-là, il serait chayav. À ce sujet, Rava a répondu qu'elle serait ptoura. L'Agma demande pourtant, il y a marqué clairement dans une raïta qu'il est khayab. L'Agma nous dit non, quand est-ce qu'il est khayab? C'est quand il pouvait se libérer de son impôt en payant. Deuxième lecture de cette question. Rava affirme qu'un animal qui est censé, un bétail dont on doit prélever un certain pourcentage en tant qu'impôt, on ne sera pas tour de payer, de donner un béchor, même s'il peut se libérer de cet impôt en payant de l'argent. En payant de l'argent, il ne sera pas tour. Par contre, si c'est de la pâte, une partie de la pâte est censé être prélevé en tant qu'impôt, bien qu'en général, un pain qui appartient à un non-juif est pas tour de Afrashat Hala, dans ce cas-là, il sera Khayav. Quelle différence entre les deux? Tout simplement, un animal, on sait à qui il appartient, donc on sait que c'est lié au fait qu'il est imposable, alors que la pâte, on ne peut pas savoir, et donc quelqu'un qui va le voir manger sans prélèvement, on va se poser des questions, c'est pour ça qu'il sera Khayav. La Gemara nous dit que quand un non-juif rentre dans un khatser d'un juif et qu'il a du pain dans sa main, je n'ai pas besoin de demander au non-juif de quitter l'endroit, puisque ce khametz n'a aucun rapport avec le juif. Si jamais le khametz a été déposé chez le juif, il a une obligation de le brûler avant, de s'en débarrasser avant Pessah. Si jamais il n'a pas pris de responsabilité, il a simplement dit « Bon, bah, tu veux déposer du khametz, mets-le où tu veux, mais j'ai aucune responsabilité », dans ce cas-là, il n'est pas responsable. Comme c'est marqué dans le pasouk, l'Oematse, la Gemara demande ce pasouk de l'Oematse, qu'est-ce qu'il vient expliquer? Rav Papa nous dit qu'il vient expliquer la première partie, à savoir le cas de sa responsabilité. Oui, et donc l'obligation d'être mévair, donc il est marqué l'Oematsé, il ne faut pas qu'il s'entroule chez toi. Ravashi nous dit, il vient dans le cas de la CFA où je n'ai pas l'obligation de m'en débarrasser. Et donc je n'ai pas l'obligation de m'en débarrasser parce qu'il est marqué dans le pasouk l'Oematsé bevatechem, il ne faut pas qu'il en ait chez vous. Et puisqu'il est dans un endroit qui est dédié aux non-juifs, et donc moi j'ai aucune responsabilité, c'est pour ça que ça n'est pas défini comme chez moi, c'est pour ça que je ne suis pas responsable. La Gemara nous dit, donc ça voudrait dire que louer une maison à un non-juif, donc je n'ai plus aucune responsabilité. Pourtant, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de nous louer une maison à un non-juif puisqu'il rentre d'une certaine idolâtrie dans cette maison. Ici, c'était défini comme on a dit que la location lui donnait propriété. Quel rapport avec le propriétaire juif? Lagma répond, c'est vrai, en général, on définit ça comme si c'était encore chez le propriétaire. Alors pourquoi dans le Khametz, ça n'est pas défini comme si le juif avait une responsabilité, puisqu'il est marqué, les termes ont été utilisés, c'est loïmatse, il faut quelque chose qui soit sous sa tutelle, et là ça n'est pas sous sa tutelle. Ravuda nous dit, quelqu'un qui trouve du Khametz pendant Pessah, pendant Yom Tov, donc puisqu'il ne peut rien faire pour l'instant, il va simplement mettre un ustensile dessus pour s'assurer qu'il ne va pas le consommer. Rava nous dit que si ce Khametz appartient à Hekdesh, il n'y a pas de problème, puisque de toutes les façons, tout au long de l'année, il fait attention de ne pas consommer. Autre enseignement de Rav Yehuda de Rav, un Khametz d'un non-juif qui se trouve chez moi à la maison et qui a le droit de rester chez moi à la maison, il faut faire une cloison entre moi et le Khametz pour se rappeler que je ne dois pas le consommer, mais si c'est quelque chose du Hekdesh, il n'a pas besoin, pour la même raison, tout simplement, puisque de toutes les façons, il fait attention à ne pas le consommer. Rav Yehuda nous dit de Rav une troisième halakha, quelqu'un qui quitterait sa maison, ça dépend s'il quitte dans les 30 jours ou avant les 30 jours. S'il quitte avant les 30 jours, il n'a pas l'obligation de faire le biour. Mais si c'est pendant les 30 jours, il a l'obligation de faire. Abaye vient et nous dit, ce qu'on a dit que pendant les 30 jours, il a l'obligation de faire, c'est seulement s'il a l'intention de revenir pendant Pessah, mais s'il n'a pas l'intention de revenir, il n'est pas khayab. Rava lui dit, non, c'est pas vrai. S'il a l'intention, même s'il est parti depuis Rosh Hashanah, il aura l'obligation. Donc Rava nous dit que la précision à faire, c'est plutôt comme ça. Si on a tout ce qu'on a dit qu'avant les 30 jours, il n'a pas l'obligation, c'est seulement qu'il n'a pas l'intention de revenir. Mais s'il a l'intention de revenir, n'importe quand qu'il est parti, puisqu'il a l'intention de revenir, il sera khayab. Mais c'est Rava l'Ishitato, comme il est marqué quelqu'un qui a défini sa maison comme étant un dépôt. Et donc maintenant, le khametz qui va se trouver là-bas est complètement enterré par tout ce qui est entreposé dans ce dépôt. Donc normalement, on n'aurait pas besoin de faire le bio khametz puisqu'il est enterré. Mais ça dépend. Si ça a été fait avant les 30 jours, alors il n'est pas tour. Si ça a été fait pendant les 30 jours, il est khayav. Même si ça a été fait avant les 30 jours, on a dit qu'il n'est pas tour. C'est à condition qu'il n'ait pas l'intention de déplacer ça avant Pessah. La Gemara nous dit qu'est-ce que d'où ça sort ce inyan des 30 jours. Elle ramène Marloketa. La Gemara nous dit qu'il y a une halakha d'apprendre la halakha de Pessah avant 30 jours avant Pessah. Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit 2 semaines. Donc, puisqu'on voit qu'on est 30 jours avant Pessah, on a déjà une obligation de s'intéresser et de préparer Pessah. Donc, on voit que 30 jours avant, il faut faire attention à ne pas. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de Bjikat Rabet pour quelqu'un qui quitterait sa maison. D'où est-ce qu'on sait ça? Il y a marqué que Moshe se trouvait le premier jour de Pessah. Il était en train d'enseigner au peuple juif la halakhot du Pessah Sheni pour ceux qui étaient impurs. Donc on voit que 30 jours avant, il faut se préparer à Pessah. Je vais lui dire, non, c'est pas une preuve. Pourquoi est-ce que là-bas, il a enseigné Pessah Sheni? Puisque de toute façon, il a enseigné la halakhot de Pessah Rishon. Il a enseigné aussi la halakhot de Pessah Sheni. Quelle est la raison de Rajba qui nous dit 2 semaines? On voit que Moshe se trouvait au Rosh Kodesh. Et il était en train de leur enseigner la halakha de Pessah, parce qu'il a marqué la sortie d'Égypte par Rosh Chodesh. Et après, il leur a enseigné la halakha de Pessah. La Gemara nous dit, c'est vrai qu'il leur a enseigné Rosh Chodesh le jour de Rosh Chodesh, mais peut-être que Pessah, il leur a enseigné plus tard. La Gemara nous dit, donc, il y a un autre passage où il a marqué que Moshe, dans la deuxième année de Pessah, il leur a dit la halakha de Pessah. Ils ont fait le Pessah en temps et comme il fallait. Donc, on voit qu'il était à Rosh Chodesh. Et il leur a enseigné pour 15 jours plus tard. La Gemara nous dit, mais il n'y a toujours pas de preuve. Qui t'a dit que là-bas, on parle que c'était Rosh Chodesh, peut-être c'était le 4 ou 5e jour. Rabbi Nachman nous répond, puisque c'est marqué Bamidbar, et dans la paracha d'avant, c'est marqué aussi Midbar, et là-bas, on parle de Rosh Chodesh Iyar, mais en tous les cas, on parle de Rosh Chodesh, donc on sait qu'à chaque fois, c'était Rosh Chodesh, donc on voit qu'il a enseigné la Lachot de Rosh Chodesh, depuis Rosh Chodesh pour Pessah. La Gemara nous dit, mais si c'est comme ça, la paracha d'avant qui parle de Rosh Chodesh Iyar, qui est après Nissan, pourquoi est-ce que Iyar, l'histoire de Iyar est racontée avant celle de Nissan? C'est dans le désordre. La Gemara nous dit, de là on peut conclure que El Mouda ou Moucha Batora, c'est-à-dire que les enseignements qui ont été enseignés ne sont pas enseignés seulement par l'ordre chronologique. Il y a une autre raison pour laquelle ils ont été enseignés l'un avant l'autre, et c'est pas forcément la chronologie. Donc il arrive que quelque chose qui s'est passé plus tard est raconté plus tôt. Alors, papa nous dit que quand on dit que El Moudam ou Meucha Batora, c'est seulement quand c'est dans deux, la Gemara au début comprend dans deux parachiotes, mais quand c'est dans la même paracha, forcément, ce qui est avant et avant, ce qui est après et après. Pourquoi? Puisqu'on a des règles qui s'appellent par exemple Klal ou Prat. En Bichlal Amashemi Prat, c'est-à-dire, on a une généralité, après on a un détail. En Bichlal Amashemi Prat, donc en fin de compte, on ne fait que d'après le détail. S'il y a un désordre, peut-être que ce n'est pas Klal ou Prat, peut-être que c'est Prat ou Klal, peut-être que le Prat est avant. Pareil pour Prat ou Klal, peut-être que ça n'est. En général, quand c'est Prat ou Klal, on va d'après, on a élargi le Prat. Peut-être que c'est le contraire, peut-être que c'est Klal ou Prat. Donc forcément, quand c'est dans la même paracha, forcément que c'est dans l'ordre. L'Agma nous dit, si c'est comme ça, même dans deux parachiotes, on devrait dire qu'il y a de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui nous dit qu'on peut enseigner un klal ou prat de deux parachiotes distinctes. Et si elles sont dans le désordre, peut-être que c'est klal ou prat au lieu de prat ou klal. Donc il y a un désordre. La Gemara nous dit, c'est vrai que d'après ce Mandé Amar, on peut apprendre deux parachiotes, mais deux parachiotes qui parlent du même sujet, elles sont forcément dans l'ordre et c'est pour ça qu'on peut apprendre. Mais quand ça ne parle pas du même sujet, il peut y avoir des ordres. Encore une fois, ce n'est pas des ordres, c'est un ordre différent qui n'est pas basé sur l'ordre chronologique. Rav Yehuda, au nom de Rav, nous dit que celui qui fait l'abdika a l'obligation de faire le bitoul. La Gemara nous dit, quel est l'intérêt de faire ce bitoul? Si c'est parce qu'il risque d'avoir des miettes, de toute façon, elles ne sont pas importantes. Qu'est-ce que tu vas me dire? La personne fait attention à que personne ne rentre chez lui à la maison. Donc il garde sa maison. Donc peut-être à travers la shmira qu'il fait de sa maison, il va donner de l'importance aux miettes qui se trouvent à l'intérieur. On va ramener une preuve que non. Quelqu'un qui a un champ. Dans ce champ, il y a des figuiers. Et il y a certaines figues qui sont de toutes les façons de mauvaise qualité. Et il n'a aucun intérêt dans ces figues. Il garde son champ seulement parce qu'il a là-bas une vigne aussi. Ou un cas contraire. Donc la Gemara nous dit, s'il fait attention béhémet à ses figues, donc celui qui les prend aura transgressé l'interdit de voler. Et elles ont puisqu'elles ont un propriétaire, son chèvre de maaser. Mais si le balabait ne fait pas attention, il n'a aucun intérêt dans ses figues. Tout ce qu'il conserve son champ, c'est pour que personne ne prenne ses raisins. Mais ces figues-là ne l'intéressent pas. Elles sont permises. Tout celui qui veut a le droit de se servir. Il n'y a pas d'interdit de l'obligation de maaser puisqu'elles sont définies comme FK. En tous les cas, on voit qu'un endroit qui est conservé, pas tout ce qui se trouve à l'intérieur de cet endroit est défini comme la propriété du propriétaire. Donc, chez nous aussi, quelqu'un qui fait attention à ce que personne ne rentre à sa maison, les miettes qui se trouvent chez lui ne sont pas définies comme étant sa propriété. La Gemara répond, la raison pour laquelle on l'oblige de faire le bitoul, c'est de peur qu'il trouve, après avoir fait l'abdika, il trouve encore un paquet de gâteaux, un beau paquet de biscuits ou autre chose. Et puisque c'est sûr qu'on parle, la galerie Chouine nous dit, c'est sûr qu'on ne parle pas d'un rachat qui veut manger du hametz pendant Pessah, c'est sûr qu'il va le brûler. Mais il risque de se dire, c'est dommage, on va essayer de donner un goy, on va essayer de donner un chien ou autre. Et donc, entre-temps, il va transgresser. C'est pour ça qu'on a préféré lui dire, fais bitoul. Et puisque de toutes les façons, il ne revient pas en arrière de son bitoul. Donc, pendant
le moment où il est en stand-by, où il est en train de rechercher comment s'en débarrasser d'une manière où il peut tirer quand même un petit profit, entre-temps, il ne transgresse pas, d'interdit. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il faut faire maintenant? Pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas le moment où il trouve? La Gemara dit peut-être qu'il va trouver après l'heure où il n'a plus le droit d'en consommer, puisqu'à ce moment-là, il n'est plus dans sa propriété, il ne peut plus faire de bitoul, comme Rabbi Lazar nous dit. Il y a deux choses qui ne sont pas dans la propriété de l'homme, et la Torah les a définies comme la propriété de l'homme. Quelqu'un qui creuse un trou dans un réchaud arabim, il ne s'est pas approprié ce trou, mais pourtant il est responsable de tous les dégâts qu'il va causer. Pareil pour le Khamet, à partir de. Le moment où il est interdit à la consommation, ce Hamas ne lui appartient plus, mais il aura, si jamais il se trouve chez lui, il aura quand même une responsabilité, il aura transgressé un interdit. La Gemara demande, ok, alors en Maka, on aurait dû faire le bitoul le matin, 4e heure, 5e heure. La Gemara dit, non, mais puisque ça n'est pas un moment où il est interdit, et ça n'est pas un moment où il a l'obligation de brûler, donc il ne va pas s'intéresser au bitoul à ce moment-là, il risque d'oublier, et donc il ne va pas faire le bitoul, et donc il va transgresser. La Gemara dit, bon, ok, alors 6e heure. Sixième heure, on a interdit Midei Rabbanan le Khamet. Et donc à ce moment-là, il pourrait. Il n'est pas encore interdit Midei Torah. Il a interdit seulement Midei Rabbanan. Et donc il sait qu'à ce moment-là, il n'a plus le droit d'en profiter, de refaire le bitoul. Puisqu'il a interdit Midei Rabbanan. Donc on l'a rendu aussi. Cet interdit est aussi conséquent qu'un interdit Midei Torah. Et donc il n'a plus aucune propriété dessus. Comme Rav Guidel nous a dit que quelqu'un qui donnerait du Khamet avec des chités Kourdenaïta, c'est-à-dire des chitim qui ont poussé dans les montagnes de Ararat et qui sont très durs. Et donc. Même quand on met de l'eau, 0,00 et quelques, j'exagère, mais il n'y a pas beaucoup de risque qu'il soit Khamet. Et à ce moment-là, c'est seulement un interdit Midei Rabbanan. Donc normalement, cette femme qui a reçu une valeur apparemment, elle devrait être définie comme une Koulechette, puisqu'elles sont interdites Midei Rabbanan. On n'est pas recherche l'équilibre, c'est-à-dire qu'on considère à 100% l'interdit Midei Rabbanan comme un interdit Midei Torah. L'Agma demande. Toi, tu es en train de me dire qu'après que le Khamet s'est interdit, on ne peut plus faire de bitoul. Pourtant, il y a marqué que quelqu'un qui était en train d'étudier et il s'est rendu compte, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, il s'est rendu compte qu'il a du Khamet à la maison, il peut le faire le bitoul. L'Agma nous dit Shabbat, je peux comprendre que le 14 Nissan est arrivé le Shabbat, mais quand tu me dis Yom Tov, c'est forcément, on parle qu'on est déjà pendant Pessah et on voit qu'on peut faire un bitoul. Avraha explique, on parle de quelqu'un qui est au Betamidrash et qui se rappelle qu'il a une pâte qui est en train de monter à la maison avant qu'elle devienne Khamet et donc il doit faire le bitoul à distance. Il peut faire le bitoul à distance puisque la pâte n'est pas devenue Khamet. On va résumer rapidement ce qu'on a fait aujourd'hui. La Gemara nous dit qu'une Behema Tarnona, un bétail dont on va prélever un impôt, et pas tour de Maaser, mais une Khalat Arnona et Khayav de Maaser. Un non-juif qui rentre avec du Khamet, on n'a pas besoin de l'écarter. Un non-juif qui va laisser chez nous du Khamet, on n'a pas besoin d'être Mever. Quelqu'un qui trouve du Khamet à la maison va couvrir, va le mettre avec un ustensile pour ne pas le consommer. Du Khamet d'un non-juif qui est déposé chez nous à la maison, il faut faire une Mechitsa. Quelqu'un qui sort 30 jours avant Pessah, dans les 30 jours, il a l'obligation de faire Bika. Avant les 30 jours, il n'a pas l'obligation de faire Bika, à condition qu'il ne compte pas revenir. On appelle ça Marloquette. Est-ce que l'obligation d'étudier le Pessah, c'est 15 jours ou 30 jours avec les sources qui ont été ramenées? On a conclu que El Mugdam ou Meuchar Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais si on a deux parachutes qui parlent du même sujet, il y a oui un ordre chronologique, je précise, regarde Delta Sfot dans Menachot, là-bas il dit autre chose. Rav Yehuda nous dit qu'on a l'obligation, même si on a fait l'abdika, de faire le bitoul. Pourquoi? Parce qu'il risque d'en trouver pendant Pessah et donc de vouloir le conserver quelques minutes et de transgresser, c'est pour ça qu'on fait le bitoul. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas avant? Parce qu'il risque d'oublier. On ne peut pas faire le bitoul après le zman d'interdit, même quand c'est seulement un zman, mais interdit Midei Rabbanan, on ne peut pas faire le bitoul. Baruch Hashem, Medaf Eclair, et à demain, Be'ezrat Hashem.